aquí en el ámbito de la formación permanente. Por tanto, incluiría a los profesores en este ámbito que también es de investigación. Por tanto, no me sitúo prioritariamente en el ámbito de la formación inicial, aunque naturalmente hay muchos aspectos importantes.
Lleva a cabo unas determinadas prácticas, unas prácticas que se basan en su conocimiento y por tanto es una práctica que puede ser reflexiva en el sentido de que el profesor no se considera alguien que simplemente actúa, sino que tiene un conocimiento que aplica y que elabora sobre la misma práctica, pero el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura como conocimiento sistematizable y comunicable sobre dicha práctica es un ámbito que no es simplemente la práctica reflexiva, es un ámbito de conocimiento elaborado que se puede compartir más allá de la práctica, Y por tanto aquí nos situamos en el terreno de la investigación sobre las actividades humanas. ¿Cómo se elabora este conocimiento? Por tanto, ¿cómo se investiga? ¿Cuáles son los principios o las bases para concebir una investigación sobre la actividad de enseñanza y aprendizaje de las lenguas? Bueno, yo me baso en para no hacer muy compleja esta reflexión sobre la actividad, porque tenemos el tiempo muy justo, pero para tener una idea del concepto de actividad, podemos partir de esta definición de Leontief. La actividad humana es un formato organizador y regulador de del comportamiento humano en el cual se inscriben las interacciones del individuo con el medio. Una idea importante es la idea de finalidad y de motivo, por un lado, y de finalidad de estas actividades que los sujetos llevan a cabo. Vygotsky ja elabora este concepto de actividad, la actividad humana. En la actividad humana el sujeto no actúa directamente sobre el objeto, sino que actúa a través de instrumentos, todo tipo de instrumentos, de los cuales importantísimos son los instrumentos semióticos. Pero a mí me interesaba llegar aquí. Engström reelabora o amplía, digamos, este triángulo de la actividad que surge del planteamiento de Vygotsky, y lo amplía introduciendo aspectos sociales de la actividad humana. Por un lado, la comunidad en la cual esta actividad se inscribe, que comporta en las actividades humanas una división del trabajo, ha comportado históricamente una división del trabajo, y que ha elaborado esta comunidad a través de estas actividades unas reglas y unas normas que regulan socialmente o que están presentes en la regulación de esta actividad. A mí me parece interesante porque esta visión nos permitirá ver la complejidad de las actividades implicadas en el sistema didáctico, o en el sistema de actividad básico, digamos, que sería el sistema didáctico. Porque el mismo Engström, digamos, amplía esta idea que podría quedar reducida a este triángulo ampliado, sugiriendo, con lo que ya hemos dicho, ¿no?, que cada uno de los polos de este sistema de actividad, el de los instrumentos, el sujeto, el objeto, de las reglas, de la actividad, del objeto de la actividad, etc., forman parte al mismo tiempo de sistemas de actividad. Y por tanto, los sujetos que están insertos en un sistema de actividad, que sería el de, pongamos por caso, enseñar y aprender lenguas, aportan, digamos, su estar y su actuación, las representaciones o las formas de actuar propias también de otros sistemas de actividad. Veremos algunos ejemplos de esto. Otra idea que nos permitirá avanzar en la relación que yo quería establecer entre intervención e innovación, que es que los sistemas de actividad son dinámicos. El mismo Leontief pone un ejemplo, que es el de la caza, ¿no? Un sistema de en una sociedad cazadora, la caza es el medio de conseguir alimento, y por tanto de el motivo es exactamente, o la actividad sería esta, la alimentarse, conseguir el alimento. Actualmente la caza tiene otros objetivos y conseguimos alimento a través de otras actividades como, pues, comprar y vender, ¿no?, ir al supermercado, etc. En primer lugar, por tanto, los sistemas de actividad son cambiantes porque las sociedades, pues, cambian, las formas de hacer, de actuar, etc. Luego, ¿qué otro elemento incide en los sistemas de actividad para verlos desde este punto de vista cambiante y dinámico? La interrelación entre sistemas de actividad. La interrelación entre sistemas de actividad que se dan a veces en confluencia y a veces en contradicción en el mismo espacio didáctico. Voy a poner un par de ejemplos de eso. Y también muchos cambios en los subsistemas implicados. En nuestro caso, los estudios lingüísticos, por ejemplo, y el predominio de unos paradigmas lingüísticos a otros, no son ajenos a los cambios que presionan al sistema didáctico. No son ajenos a ello, o los nuevos medios, por ejemplo, de comunicación, o los cambios socioculturales que conllevan, pues, diversidad del alumnado, o los cambios en las relaciones mundiales de comunicación que facilitan los desplazamientos humanos, etc. Todo esto son cambios que inciden en este sistema de actividad de enseñar y aprender lenguas y que exigen análisis constante para ajustar el sistema de actividad a estas situaciones cambiantes. Por tanto, desde este punto de vista, la innovación, que es una palabra a veces proscrita de nuestro lenguaje porque se ha asociado a cambiar por cambiar, la innovación es inherente al hecho de que enseñar y aprender lenguas es una actividad social y culturalmente enraizada, históricamente enraizada, dinámica, y por tanto exige de los que se dedican a ella ir ajustando sus prácticas a estas situaciones cambiantes. No es el capricho, este profesor es... No, es que aunque no queramos cambiamos, a veces podemos cambiar a peor, y por tanto la investigación, la reflexión tenderá a buscar un ajuste para hacer adecuadas las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Voy a poner un ejemplo de esta situación de sistemas de actividad en confluencia y en competencia. Este pequeño diálogo está sacado de una entrevista de una investigadora chilena con unos estudiantes de primer curso de historia, pero de licenciatura para enseñar, de enseñantes de historia. El profesor está dando está enseñando contenido sobre las sociedades precolombinas. Es un profesor que hace escribir muchísimo a los estudiantes en relación con muchas actividades diversas. Por ejemplo, los estudiantes van a los sitios arqueológicos y hacen cómo, si fueran arqueólogos, elaboran su informe, digamos, de la investigación que han hecho en el sitio arqueológico, pero luego también llevan a cabo actividades en el aula a partir de pues vídeos que han visto sobre excavaciones arqueológicas, sobre artículos que han leído, sobre las explicaciones del mismo profesor. Y bueno, en la investigación de esta profesora, Patricia Uribe, de una universidad, la Universidad Tarapacá en Arica, en Chile, en esta investigación ella pregunta sobre los procesos que siguen los estudiantes al escribir, y pregunta a este grupito que está entrevistando, formado por tres estudiantes. Aquí solo aparece uno, he sacado este ejemplo porque es muy representativo de esto que yo, me parece a mí muy representativo de lo que yo les estoy diciendo. Han escrito lo que ellos llaman un informe de taller, que es un texto puramente, digamos, ya no académico, casi escolar, ¿no? El profesor plantea cuatro preguntas y ellos, a partir de los textos que han leído, del vídeo que han visto, tienen que dar respuesta a estas preguntas, pues ajustándose a las demandas de un texto un poco formal que el profesor les formula. Y este alumno, Genaro, ya verán lo que dice. Dice, ¿y ustedes cuando están haciendo eso, están pensando en alguien que lo va a leer? Genaro dice, yo sí. ¿Y quién se supone que lo va a leer? Yo siempre pienso que lo van a leer en un diario. Fíjense bien que él aquí está evocando un sistema de actividad distinto del sistema de actividad académico, centrado en la academia. También evoca a veces... ¿Sí?
Excusez-moi, je ne
comprends pas un mot d'espagnol, un mot de catalan. Ah. Quand c'est des mots généraux, on les comprend. Oui, oui. Avec la langue, c'est oui. Le programme écrit. Mais là, je suis fermée. Bon, cet élève est en train d'exprimer à qui s'adresse. Il dit, dans une situation académique, il dit, je pense toujours que je vais écrire pour un journal. Para un diario. Distintos sectores, varias personas lo van a leer. Dice, sí. Por ejemplo, yo para las pruebas, pour les examens, nunca le contesto al profesor. O sea, cuando yo estoy escribiendo, primero me gusta, j'aime d'abord, primero me gusta así como... A mí siempre me han dicho que así, que soy cuentero, que je suis un peu fabulateur. Mejor, pero a mí me gusta escribir así. Y primero lo coloco porque a mí me gusta así. Y hay algunos profesores que les gusta y otros no. Y a de profesor qui aime ça et d'autres n'aime pas. Bueno, a Miguel le gustaba el año pasado, pero ahora parece que no le gustó mucho. Pero, por ejemplo, este profesor, ¿cómo se llama? El Bosque, me ha ido bien, todos estos nombres son inventados, ¿eh? Él me fue muy bien con este estilo. Fue con el profesor Gómez porque yo a cada parte que voy a hablarle le coloco un título. Entonces el título me ayuda como medio fantástico. Je mets un titre à chaque partie, mais un titre un peu fantastique. ¿Eh? O sea, por ejemplo, en este trabajo. Es decir, este alumno, en cierta forma, tiene dificultades para situarse en un entorno estrictamente académico, pero no escribe mal. Yo ahora no les puedo contar toda la dinámica de las opiniones de uno y de otro, porque sería muy largo. Simplemente este ejemplo servía para mostrar que en una situación académica en que él tiene que aprender a escribir textos de tipo académico, él evoca otros sistemas de actividad que a veces le ayudan y a veces entorpecen. Pero es interesante que el profesor, algunas veces, yo me he preguntado cómo es que algunos estudiantes de algunos países tienen más dificultad para entrar en una redacción de tipo académico. Bueno, a lo mejor es que la formación inicial de bachillerato incide más en unos usos que en otros, etc. No quiero presuponer nada, por ejemplo, pues aquí en España hay dificultades, ¿no?, para la escritura académica muchas veces. ¿Qué ocurre, ¿no?, cómo debería enseñarse? ¿Qué representaciones tienen los estudiantes a partir de los sistemas de actividad en que han participado anteriormente sobre qué es la lengua escrita, etcétera? Estos son ejemplos de reflexiones que nos llevarían a pensar en eso. Ahí. Otro ejemplo. Este ejemplo surge de un trabajo de investigación de Teresa Rivas, una profesora de mi departamento, y escriben, los alumnos escriben un texto argumentativo sobre la opinión que ellos hayan establecido como tesis, el trabajo de la mujer. En general, pues todos defendían que la mujer debería salir de casa y trabajar. Voy a ponerles el ejemplo de dos grupos, porque la interpretación que hizo Teresa Rivas fue que los estudiantes de un grupo y de otro, de hecho, ajustaban, digamos, su hacer, su escribir, a sistemas de actividad distintos. Porque en una situación de escritura, en situación escolar, cuando se basa en proyectos que tienen un objetivo, digamos, comunicativo, que se hace, pues por lo menos verosímil para los estudiantes, están insertos en dos sistemas, como mínimo, digamos, en dos sistemas de actividad que confluyen. Un sistema que sería el sistema de comunicación con los demás, ¿eh? Si tenían que escribir un texto para un periódico, este es un sistema de comunicación que tiene unas reglas, que tiene unos medios de distribución, una comunidad de receptores y de distinta, y un sistema de actividad escolar, digamos, académico, escolar en este caso, podríamos decir más que académico, que es una situación de aprendizaje. Están metidos ellos en una situación de aprendizaje de unos contenidos sobre el texto argumentativo en este caso. Son dos sistemas de actividad que confluyen. Entonces, las discusiones que se han tenido muchas veces sobre las funciones de la escritura parecían suponer que de simplemente concebir la situación de escritura en el aula como un sistema comunicativo bastaba para aprender a escribir, sin concebir que hay, uniéndose a él, un sistema de enseñanza y aprendizaje, que veremos en la representación de estos alumnos que laboran en pequeños grupos, no es coincidente. Este grupo está, yo diría, sería un ejemplo de asunción del sistema de actividad, digamos, comunicativo. Ellos escriben para que otros niños y niñas o jóvenes de su edad se convenzan de la importancia de que la mujer trabaje fuera de casa. Y este es esto pasa por delante de todo. Fíjense lo que hace. Son tres pequeños fragmentos. Dice, no, uno de ellos. Hemos fallado. Tenemos que hablar como un grupo de jóvenes, porque esto comienza a parecer demasiado. Esto no puede ser.
¿Qué dices, gendarme? ¿Cómo? ¿Por qué habla así? No, porque eso empieza a ser demasiado heavy. Aquí, tope, comienza. Y después allá, como Hitler, allá, no tal, no sé qué. Eso no puede ser. Cuando dice, porque eso, como este de aquí, quiere decir como los modelos formales que tienen delante. Más adelante, se acerca una profesora, no sé si es la profesora o la investigadora, dice, hemos utilizado un recurso nuevo que no lo decís vosotros, porque han planteado el texto como un diálogo. Que no lo decís vosotros quiere decir que no está en la pauta de guía y de evaluación de los textos que define las características básicas del texto argumentativo y los recursos utilizables en el texto argumentativo. Hemos utilizado uno que no lo decís vosotros. Eso va como una especie de diálogo entre un grupo de jóvenes que están hablando, pero así, si te lo quieres leer, no sé si lo entenderás. Se presuponen que el profesor no lo entenderá, o sea, se dirigen a jóvenes. Hemos hecho como un diálogo que no explicabais aquí. Bueno, muy bien, es que hay muchas posibilidades. Aquí pusimos unas cuantas. Y al final de todo, al final de todo. Es que este texto, ¿sabes lo guapo de este texto? Que, y la otra dice, que no tiene nada. No, que en futuro es una palabra así malsonante. Hemos hecho, o sea, un ejemplo de gente mayor vale, porque hemos hecho como un grupo de jóvenes conscientes, sin solo con lo que ellos pensaban. Eso es lo bueno. Es la asunción absoluta de un sistema de actividad comunicativo a través de un periódico para jóvenes. Otro grupito en la misma aula, en otra esquina, haciendo aparentemente la misma actividad. Cuando están cursivas que están leyendo el texto que han escrito, dice, no tiene por qué ser una actividad estricta, no exclusiva de la mujer. Exacto, sí, sí, queda mejor. Una no tiene por qué ser un trabajo exclusivo de la mujer. Vale. Entonces aquí podemos hacer que quede más chulo. Pero más adelante, sí, porque queda un poco corto. El concepto corto y largo es un concepto puramente escolar. Claro que si escribes en un periódico tienes un número de palabras, pero el concepto corto es cuando te vienen, ¿no?, con un papelito y te dicen, profesora, ya bastante, y tú dices, no, una página, he dicho una página, y sin problema se van y acaban. Dice, ¿qué hacemos? Volvemos a leer el guión este y miramos si falta algo. O sea, la actitud es escolar, integrar todo lo que el profesor ha dicho. Son dos enfoques muy distintos de la tarea, porque la interpretación es que están, digamos, asumiendo los parámetros de actividades distintas implicadas en ello. Vamos a entrar ahora en el conocimiento científico, porque si el objeto es el sistema de actividad, el sistema didáctico, y vemos que en esta complejidad, cómo se elabora este conocimiento. Y hago una vuelta un poco atrás para plantear la relación entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. El conocimiento que surge de la simple práctica y el conocimiento organizado y sistematizado. Y apelo a dos autores, a Cassirer, a dos autores de orientación distinta. Cassirer es un neocantiano que plantea el mismo tema del conocimiento cotidiano y científico. Dice, el hombre es un animal clasificador, la palabra es instrumento para esta clasificación, y Cassirer plantea la relación entre la aparición del lenguaje como instrumento de generalización y de clasificación de la realidad, y la ciencia lo plantea como un continuum fundamentado en la misma capacidad humana de categorización. Pero, ¿qué ocurre con el conocimiento científico? En lugar de percibir hechos dispersos y aislados, la ciencia trata de proporcionar una visión comprensiva, pero esta visión no se puede alcanzar por mera extensión, por la ampliación y enriquecimiento de nuestra experiencia ordinaria. Requiere un nuevo principio de orden, una nueva forma de interpretación. Vygotsky insiste en la misma idea, quizá... ¿Me controláis el tiempo, por favor, porque ya no tengo reloj?
Quedan 5 minutos.
5 minutos. ¿Qué es lo que añade de nuevo esta cita? Es que el conocimiento científico, pueden ser usados conscientemente, al mismo tiempo son instrumentos para la emergencia de la conciencia sobre la conciencia, es decir, el control voluntario del pensamiento. Entonces, para mi argumentación, me salto aquella para ahorrar tiempo. ¿Cómo elaborar conocimiento sistematizado? Porque si decíamos que la práctica es dinámica, dinámica y cambiante en el tiempo, pero también dinámica en su realización, es un proceso. ¿Cómo elaborar conocimiento sistemático sobre una práctica que es dinámica? Y Ricoeur, a mí me parece que da una luz sobre... digamos, una práctica de investigación, prácticas de investigación que son ya muy corrientes, pero él basándose en lo que en los estudios del texto, en la hermenéutica, en la interpretación de textos, dice: el texto es un elemento en el fluir de la comunicación, pero este texto puede ser extraído de este fluir de la comunicación, hacerlo opaco, estudiarlo en profundidad en todos sus aspectos, para luego devolverlo al fluir de la comunicación con una mirada enriquecida sobre. Pues esto mismo es lo que él dice que puede, de la misma manera pueden pensarse la investigación en ciencias sociales que tratan de explicar las actividades humanas. Claro, el maestro en el aula está de lleno en el fluir de la práctica, ¿no? del hacer. ¿Cómo elaborar conocimiento? Por tanto, quiere decir que necesitamos instrumentos que nos permitan, digamos, extraer un elemento, un fragmento de esta práctica, analizarlo en profundidad, para luego volver a la práctica con una mayor luz, con mayor saber sobre esta práctica. Esto es lo que hacemos cuando hacemos registros, observaciones, utilizamos el vídeo, utilizamos instrumentos. Lo que hacemos es, digamos, suspender la dinámica para analizar este fragmento. Podemos hacerlo también en relación con las mismas prácticas, pero no es la práctica en sí misma, en su fluir, sino entresacada de esta. Este es el planteamiento general y aquí se sitúa la investigación. Y acabo con esta reflexión sobre los niveles de reflexión e investigación en la práctica. Ya, Schön situaba el conocimiento más en la práctica, y Alaret, Dewey, sobre todo Lichen Zitan, de quien he sacado esta clasificación, establecen que hay niveles distintos de reflexión y de investigación sobre en la práctica y sobre la práctica. Primero establecen estos dos niveles de reflexión en la acción, reflexión en la práctica, que sería actuación-reacción. Actuación-reacción, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, cuando un alumno se te acerca y te pregunta: profesora, ¿qué quiere decir tal palabra? La profesora puede hacer cosas distintas, puede darle el significado de la palabra, puede decirlo, ves a buscar al diccionario, puede decir, vuelve a leer el texto y veamos juntos a ver qué quiere decir. Y ¿esto de qué depende? Depende de su formación previa, de los conceptos ya, pero no tiene espacio para reflexionar, a ver, ahora voy a plantear. No, es una reflexión, una acción inmediata que le permite actuar. El segundo nivel sería el de actuación, control-reacción. Por ejemplo, la profesora ha planteado una actividad y se da cuenta de que en algún punto hay una dificultad superior en los alumnos de la que ella preveía. Pues entonces cambia, digamos, lo que tenía previsto para adecuarse a aquella situación en lugar de ir a piñón fijo, ¿no?, para hacer lo que tenía planeado. O al revés, se da cuenta de que algo interesa especialmente a los alumnos, se da cuenta del interés de seguir por aquel camino y también cambia su planificación. Pero esto es sobre la marcha, ¿eh? Depende de los conocimientos previos que tenga un profesor o profesora. Y aquí he intercalado una cita de Widdowson, dice: todas las actividades que se hacen bajo la palabra investigación pretenden ir más allá de las apariencias, pretenden descubrir categorías abstractas y conexiones subyacentes a fenómenos más o menos corrientes. Podemos considerar la investigación como un proceso dialéctico permanente. Formula la realidad en términos abstractos y a su vez de esta formulación abstracta se deriva una reformulación de la realidad. Y Griffith y Tan establecen tres niveles más de reflexión sobre la acción, y aquí propiamente se situaría la investigación. El proceso 3 sería actuación, observación, análisis, evaluación, planificación, nueva actuación. Nueva planificación, porque la actuación ya podríamos suponer es un proceso pues constantemente recursivo, ¿no? Aquí esta es una práctica habitual en la formación del profesorado, ¿no? Hablamos de lo que hacemos, de lo que hemos visto, observamos, miramos qué han hecho los alumnos, resultados, trabajos, etcétera, y luego pues esto lo tendríamos que cambiar, esta es práctica habitual. Pero lo que establece Griffith y Tan es que propiamente la investigación que puede llevar a un conocimiento compartible son en los niveles 4 y 5, en que a la actuación le sigue una observación, pero una observación sistemática, planificada, que permita observar cosas que confluyan, que diverjan, que podamos recoger de alguna manera para comunicar. No es la observación puramente ocasional para la situación en que estamos analizando en grupos de profesores, sino que es una observación sistemática con la pretensión ya de tener este conocimiento comunicable. Un análisis riguroso, tipo que tendríamos que entrar, qué quiere decir, pero quiere decir, no quiere decir un sistema de investigación único, un modelo de investigación, sino que hay diversos modelos de investigación, evaluación, planificación y nueva actuación. Y el nivel más alto, que sería el de, digamos, el que tiene ya la pretensión de reconceptualización, de elaborar un conocimiento, no simplemente de constatación de situaciones a través de modelos que ya compartimos, sino de crear nuevo conocimiento sobre las prácticas, por ejemplo, de enseñar y aprender lenguas. Pongamos por caso la tesis que he citado de Teresa Rivas, cuando nos mostraba, ¿no?, como distintos, la idea de descubrir allí distintos sistemas de actividad no era previa como modelo teórico, sino que surge de aquel trabajo de investigación. Vemos a los alumnos hacer cosas distintas y entonces buscamos fuera, digamos, una explicación que dé cuenta de estas diferencias de comportamiento de los alumnos. Bueno, y aquí he intentado hacer este enlace entre las tres ideas de intervención, innovación y investigación. Muchas gracias.
Des de Barcelona donem passada al René de la Universitat de Ginebra.
Bueno, para defender a las minorías, voy a hacer mi presentación en francés, pero he hecho el PowerPoint en castellano. Si hay alguna dificultad de comprensión, no dudéis en interrumpirme. He previsto una presentación muy corta para poder compensar con el tiempo de la traducción. Ahora, esto no quiere... Bueno, listo. Alors, ma présentation aurait dû précéder celle de Anna Kamps, parce qu'elle se situe plutôt sur une réflexion sur les dispositifs qui mettent en rapport la recherche et la formation, étant la plupart des chercheurs en didactique également ont prise de système de formation. Nous sommes formateurs d'enseignants et il y a ce rapport qui commence à être réfléchi. L'idée est de poser certains jalons, certaines bases de cette relation. Et si je dis que j'aurais dû passer avant Anna, c'est parce que l'exemple qu'elle vient de donner, finalement, est un exemple assez parlant de la différence entre la fameuse réflexivité de l'enseignant et les apports de la didactique, les apports que peuvent apporter une réflexion didactique de ces dispositifs. Je vais structurer la présentation en quatre points. D'abord, le constat d'un changement dans notre système de formation avec cette idée de professionnalisation et avec le fait que la profession et les savoirs dits professionnels font une irruption dans les terrains qui étaient des terrains de savoir institutionnellement étrangers à cette profession, sauf pour certaines, par exemple la médecine, qui elle s'est constituée toujours dans une interaction très proche entre le lieu universitaire de production des savoirs et les lieux de la pratique professionnelle. Et un des systèmes qui se met en place avec cette professionnalisation, c'est l'alternance théorie, l'alternance terrain universitaire, terrain scolaire, dont certains en font une lecture avec la fameuse alternance théorie-pratique, dont je vais essayer de montrer qu'elle ne tient pas la route posée en ces termes, mais je suis sûr que je prêche devant des convaincus. Un troisième point serait la question de savoir en quoi la recherche didactique et en particulier les approches de type clinique pourrait éventuellement apporter à ces dispositifs de formation et quels sont les dangers qui nous guettent de utiliser une vision d'application des concepts didactiques en termes de formation alors qu'ils ont été conçus pour la recherche. Et j'aborderai sous forme de récit un exemple parce que malheureusement l'exemple que je vous amenais est dans un disque dur qui refuse de marcher sur cette machine, donc il faudra me croire sur parole. Finalement, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Dans la tendance à la professionnalisation, aujourd'hui, après 10 ans en gros, on identifie deux grandes tendances. Une tendance qui est celle issue notamment de la sociologie, d'essayer de légitimer ce qu'on appelle les savoirs de la pratique, de les légitimer, de leur trouver une place institutionnelle avec la création de champs institutionnels de recherche. Et je cite là, par exemple, Altet, Pernoud, etc., font partie de ce champ. Et il y a une deuxième tendance, c'est celle de trouver des nouveaux objets et champs d'études pour des disciplines et des champs qui étaient déjà constitués. Simplement, on trouve des nouveaux objets. En l'occurrence, c'est les pratiques socio-professionnelles. Peuvent-elles devenir des nouveaux champs d'études? Quels sont les objets qui émergent? Quel type de paradigme va-t-on poser comme regard pour essayer de dégager un savoir qui n'est pas un savoir de type légitimation de ce qui est là, mais de type confrontation entre modèles et paradigmes existants, constitués, mais qui sont amenés à être réinterrogés, à être modifiés. Un des endroits, un des lieux qui se présente comme particulièrement riche pour les travaux de cette deuxième tendance, c'est justement les systèmes de formation en alternance dans lesquels, pour la plupart, on va essayer d'instrumenter les étudiants avec des modèles, des théories, des regards issus de différents paradigmes de recherche pour qu'ils analysent, ils fassent l'analyse des pratiques, l'analyse sur le terrain scolaire à l'aide de ces concepts et de cette instrumentation. C'est le système que je veux vous présenter et qui comporte certains présupposés théoriques qui ont été présentés tout à l'heure par Anna. C'est une option historico-culturelle de l'activité, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir l'analyse des pratiques non pas comme quelque chose d'individualisé qui émerge simplement de l'action, mais comme quelque chose qui est surdéterminé par des formes scolaires de pratique, par des formes d'activité socio-professionnelle, par des formes, Anna les a qualifiées d'académiques ou scolaires, de travail de réflexion sur ces pratiques. Ça implique un pari très fort, et c'est de se dire que les formes scolaires de construction du savoir ont une légitimité en soi et une forme de fonctionnement qui n'est pas celui des pratiques socio-professionnelles. C'est-à-dire que c'est une manière de marquer et de défendre la frontière entre la pratique et le lieu où on l'étudie. Le lieu où on se donne le temps de les étudier. Un lien ou un objet qui peut nous aider justement à trouver les articulations entre ces deux lieux, le lieu de l'académie et le lieu des pratiques enseignantes, quand on vient des didactiques, c'est la transposition didactique, l'étude de ces processus de transposition. Parce que le savoir ou les contenus, en l'occurrence, sont ce lien entre les deux espaces, mais c'est un lien qui n'est pas un lien d'équivalence, mais justement c'est un lien dynamique. Il y a une transformation et il s'agit de pouvoir suivre cette transformation, et c'est cette transformation qui va nous donner des indications sur les intentions, les motivations, les raisons pour lesquelles les agents font, effectuent ou participent de cette transformation. Dans la table ronde avant, donner un exemple qui me semble très parlant. Quand on est professeur de théâtre et qu'on a été formé au théâtre, on est soi-même acteur, mais qu'on va former des gens pour faire du théâtre à l'école, on est toujours avec des objets du théâtre, mais le fait d'aller avec le théâtre à l'école transforme la pratique socio-culturelle du théâtre en un instrument pour le développement des élèves. Et c'est là un processus de transposition qui, en retour, va interroger ce professeur de théâtre sur l'identité et la pertinence de ses gestes professionnels lorsqu'il propose une série de tâches à ses étudiants, futurs enseignants. Tout ça pour soutenir et affirmer qu'aujourd'hui, la recherche est un des lieux où, comme vient de le dire Anna, est un des lieux de production de ces savoirs pour la formation enseignante, et donc ça suppose la nécessaire réflexion de l'articulation du jeu de la recherche avec le jeu de la formation dans une vision évidemment pas applicationniste qui était celle qui a structuré les pratiques de formation il y a une vingtaine d'années, mais dont on voit encore aujourd'hui des traces, c'est-à-dire à un moment donné et à un endroit on fait de la théorie, puis ensuite on va l'appliquer sur le terrain scolaire. Alors, qu'est-ce que la recherche en didactique des disciplines, notamment les didactiques comparées ayant nous aidant à sortir certains concepts qui sont sinon identiques, du moins communs à différentes disciplines, Anna a évoqué le fameux triangle didactique. Ce qui est intéressant dans un système de formation en alternance, c'est qu'il y a un dispositif très complexe dans lequel vont s'articuler le système scolaire, le système d'enseignement-apprentissage scolaire, avec le système de formation. Et il s'agit de deux systèmes didactiques qui vont interagir avec deux points qui sont assez intéressants. Alors, personnellement, c'est mon côté didactique des arts plastiques, je suis très sensible à ce premier lien, c'est-à-dire un problème de posture. L'étudiant, dans ce dispositif, est parfois dans une posture d'étudiant, notamment lorsqu'il est à l'université, mais pas que, puisqu'on a observé nous-mêmes que lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils arrivent aussi avec des systèmes d'activité étudiants. Et il est aussi un stagiaire, un praticien, débutant certes, mais qui va mobiliser toute une série de ressources qui appartiennent davantage à ce système qu'à celui-là. La deuxième chose qui est commune, et c'est celle qui pourrait garantir, mais qui nous questionne également, c'est les fameux contenus. C'est-à-dire qu'il y aurait, a priori, un lien entre les contenus que nous traitons dans les systèmes de formation. Nous allons quelque part former les étudiants aux contenus qui doivent être enseignés. Et d'autre part, ces contenus ont bien une existence institutionnelle au niveau de l'école et au sein des pratiques dans les écoles qui vont accueillir nos stagiaires. Alors, l'intérêt de cette problématique de transposition étant le suivant, c'est dans quelle mesure le regard, l'analyse didactique que nous portons traditionnellement à ce niveau, notamment en termes de transposition, réinterroge ou est en mesure d'apporter des éléments concernant cette place-là du professeur qui est en même temps professeur novice et étudiant encore, et donc sur l'activité enseignante comme objet de la formation. La question étant de savoir dans quelle mesure les didactiques disciplinaires sont en mesure d'apporter des éléments qui seraient des éléments informateurs ou informants de la spécificité de l'activité enseignante au regard d'objets didactiques particuliers dans les différentes disciplines. La clinique du didactique a une particularité par rapport à des paradigmes qui sont généralisés aujourd'hui dans la formation. Je citerai simplement Schön, on le cite partout, le paradigme de la réflexivité. Quelle est la spécificité? Le paradigme de Schön, en tout cas la version qui est vulgarisée, est un paradigme a priori parfaitement inductif. Donc il suffit d'être confronté à la réalité de la salle de classe et par induction on va peu à peu construire des savoirs qui concernent même d'autres niveaux du fonctionnement scolaire, le niveau méso, le fonctionnement de l'établissement du système scolaire, mais on va même beaucoup plus loin, on situe la réflexivité comme une capacité abstraite qui serait applicable à des objets et des situations diverses. Donc, on est réflexif et basta. L'avantage de, je pense, de la clinique, c'est de s'inspirer de très près de sa grande sœur, donc la clinique médicale, et d'opposer, de confronter une démarche de type inductif, parce qu'effectivement, nous allons en classe, nous filmons ce qui se passe en classe, on essaye de comprendre ce qui se passe au plus près de la réalité, mais cette compréhension est instrumentée par un regard, par un modèle ou par des modèles, par des concepts qui orientent le regard. Avec quelque chose qui est très intéressant, et Anna l'a montré tout à l'heure, le modèle oriente le regard,
Mais la réalité qui résiste amène à modifier le modèle, à réinterroger les concepts, à les ajuster peu à peu, un peu à l'image de la pratique médicale qui, grâce à des concepts, est capable de considérer certains types et surtout certaines confluences d'indices comme des symptômes d'un cadre, de ce qu'on appelle un cadre ou un schéma clinique. Et voilà, je vois ces symptômes-là et donc je déduis que le patient a tel type de problème. Mais comme vous le dira tout médecin, sur 5 indices qu'annonce le modèle, souvent il ne voit que 3. Et ça leur permet quand même de dire que ça correspond à tel schéma. Et il y en a un cinquième ou un sixième qui, hélas, n'était pas dans le schéma, mais qui commence à apparaître de manière récurrente, et donc qui, à terme, va à modifier le modèle avec lequel les praticiens de la médecine orientent leur action. Méthodologiquement, nous structurons les recherches qui sont menées en démarche de didactique clinique. La didactique clinique est plus une méthodologie qu'une méthode. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est une démarche ouverte qui souvent prend des méthodes, abandonne d'autres et essaye de s'adapter aux particularités du terrain observé. En tout cas, je vous présente rapidement ce que nous on fait dans le cadre de notre équipe de recherche en enseignement artistique, inspiré de travaux qui sont faits en recherche clinique du didactique en mathématiques notamment par l'équipe de Maria Luisa Schubauer, Francia Leutenegger et l'équipe de didactique comparée. Le centre et le nucléum, c'est le fait de filmer les pratiques de classe et donc produire deux types de traces comme réduction, des synopsis qui gardent la vision d'ensemble de ce qui s'est passé et puis des transcriptions qui vont être utilisées pour analyser microgénétiquement les phénomènes. Ces traces sont illustrées, sont complétées, sont informées par des entretiens avec les différents agents et en fonction de la question qu'on pose. Donc, si on s'occupe de l'action enseignante, ça sera souvent des entretiens avec les enseignants, des entretiens ante et post. Mais il y a ce point-là qui me semble moi fondamental et qui est souvent laissé de côté dans les recherches, dans l'application de recherche pour la formation, c'est l'analyse a priori. Alors, ça pourrait être cette méthode-là ou une autre. Ce qui m'intéresse, c'est que l'analyse a priori fait émerger cet objet d'enseignement. Il fait émerger cette histoire d'un champ scolaire et de recherche qui va, d'une certaine manière, éclairer les raisons des choix des enseignants dans ce système que l'on recueille avec ce genre de traces. Alors ça peut être, je le dis, l'analyse a priori, il y en a d'autres. Ce qui est important, c'est que l'objet réémerge ici. Et puis, il y a une méthode, là j'ai laissé le terme original, c'est la fameuse autoconfrontation qui vient de l'analyse du travail et qui n'est pas tout à fait l'autoconfrontation telle qu'on l'applique en analyse du travail, puisque celle-ci, elle est orientée par des concepts didactiques. Ce n'est pas simplement dire à deux enseignants d'analyser une vidéo et de lui confirmer ou de se auto-justifier à partir de l'image, c'est apporter un autre regard avec d'autres questions à cette trace. Et si on la fait croiser, c'est justement parce que ce qu'on cherche à faire émerger, c'est davantage ce qu'on appellerait des dimensions professionnelles, collectives de l'agir, plutôt que des dimensions individuelles qui seraient, elles, liées beaucoup plus aux motivations de l'individu. Attention, danger. Quel est le problème? Et on l'a vu déjà dans quelques présentations dans ce congrès. c'est que des concepts qui ont été produits par la recherche en didactique, par exemple les actions enseignantes, un enseignant dévolu, un enseignant définit le système, définit l'objet, le présentifie, un enseignant régule l'activité des élèves, un enseignant institutionnalise, sont des concepts qui ont tendance à être malheureusement réifiés en formation. Qu'est-ce que j'entends par réification ? Il y a l'étudiant qui regarde sa vidéo et qui me dit « Zut, j'ai pas institutionnalisé ». Mais il se trouve qu'on n'institutionnalise pas de la même manière en français qu'en art plastique, qu'en histoire géo, qu'en éducation citoyenne. Et un des dangers que nous sommes en train d'observer souvent, notamment avec ces fameux gestes génériques, c'est qu'ils ont tendance à devenir, comme la compétence par rapport au savoir, ils sont en train de devenir l'étiquette avec laquelle on essaye de saisir une réalité professionnelle en oubliant qu'elle est surdéterminée par les objets historiques, par les systèmes d'activités multiples qui les traversent, par les communautés discursives, chers collègues des communautés discursives, les communautés discursives qui les habitent dans l'espace de la classe. En ce sens-là, ce qui nous semble intéressant, c'est d'utiliser, et ce matin encore on a eu quelque part la preuve, ces trois autres concepts qui par leur nature même résistent un peu plus à la réification en termes de formation, qui sont celui de méso, topo et chronogénèse. Pourquoi est-ce que ces termes-là ont un effet formateur? Et c'est là où je vais passer directement à mon exemple évoqué, puisque pas montré. Prenons le concept de mésogénèse. La mésogénèse est un concept descriptif. On part du principe que toute activité est située, elle se donne dans un lieu, elle se donne dans un environnement matériel et symbolique, et donc il y a forcément un milieu, plutôt dans le sens sociologique du terme. Lorsque ce milieu est aux prises d'un système d'enseignement-apprentissage ou aux prises d'un système de formation, il devient potentiellement un instrument d'enseignement, un instrument de travail d'enseignement. Inviter les étudiants, les futurs enseignants, à observer dans leur pratique la qualité de leur milieu, as-tu un milieu? Ça, on ne l'interroge pas. On ne va pas réifier. Il y a de toute façon un milieu, puisque nous sommes corporels, il y a un milieu. Mais y a-t-il un milieu didactique? Et pourquoi est-il didactique, celui qu'on va observer? Et une manière d'inviter l'étudiant à se décentrer des intentions et motivations propres à sa pratique pour essayer d'avoir une vision un peu plus systémique de ce qu'il est en train d'observer. La topogénèse est un concept qui sert aussi à ça. Au-delà des places d'enseignant ou élève, qui sont les places les plus évidentes, puisque l'étudiant se voit comme enseignant et il voit les élèves, la topogénèse, du point de vue des savoirs, à deux autres places qui nous semblent plus subtiles et plus intéressantes, c'est les places d'experts et de novices. Au regard de l'objet enseigné, comment se déplace l'expertise dans ce que vous êtes en train d'observer? Et c'est là où nous, personnellement, on fait jouer la fameuse autoconfrontation, cette fois non pas en termes de recherche, mais en termes de formation. Alors, rapidement, l'exemple évoqué, nos étudiants ont, comme la plupart des étudiants en didactique, à faire une programmation, une planification qu'ils vont mettre à l'œuvre sur le terrain scolaire. On les envoie en diable. Il y a un qui va jouer le rôle du prof, et il y a l'autre qui le filme. En général, celui qui filme, il a énormément envie d'enseigner. Donc, on leur propose de changer les rôles de temps à autre, comme ça, ils font les deux choses. Mais ce qui est important, c'est que, entre un moment de terrain et le suivant, dans notre dispositif en général, on a entre 2 et 3 semaines entre les deux moments, ils doivent regarder cette vidéo et ils doivent la regarder en s'instrumentant de ce regard. Alors, soit en posant la question de la mésogenèse, quel milieu, dans quelles conditions, comment se déroule-t-il, soit orienté par la topogenèse, quelle place d'expertise, qui est expert, à quel moment il est expert par rapport à quoi, dans quel jeu se place-t-il. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des effets. C'est-à-dire que 2 semaines après, on voit des modifications en termes d'enseignement, en termes des concepts de définition, d'évolution, régulation, institutionnalisation. Pourquoi ? Parce que l'étudiant n'était pas allé chercher s'il évoluait ou pas. Il a été cherché, par exemple, topogénétiquement, quelle est la place qu'a eu l'élève. Et pour vous donner un exemple que j'utilise très souvent parce que c'était très parlant, les élèves devaient faire une peinture à la manière de Pollock. Vous connaissez Pollock avec le dripping, voilà. Alors, les contenus de l'enseignante novice étaient bien celui d'une série de gestes qui permettaient d'effectuer le dripping, mais il y avait aussi d'autres gestes qui n'appartiennent pas à ce savoir et qui viennent du travail scolaire. Alors, le travail scolaire dit que l'élève doit se déplacer autour de la toile, faire des gestes, contrôler son geste. Lors de la première séance, l'enseignante lance l'activité, chaque élève avec un pinceau, 3 élèves autour d'une feuille, et puis elle constate que les élèves ne bougent pas de leur place, ils giclent un tout petit peu de peinture plutôt timidement, il n'y a pas d'interaction entre eux, etc. Enseignante novice, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 30 secondes, elle meurt d'angoisse, elle intervient. Bougez, allez, levez-vous, et puis toi, tourne autour, et changez-vous la peinture. Résultat, effectivement, au bout de 10 minutes d'activité, elle a son résultat obtenu, mais elle n'a pas fait preuve de réticence, elle n'a pas dévolué, c'est elle qui a fait l'activité via les élèves. L'exercice d'autoconfrontation leur a permis, sans qu'on intervienne, puisque Adriane, avec qui on partage ce genre d'exercice, ils font ça chez eux le week-end, on n'intervient pas, on n'est pas présent pour orienter. L'exercice de confrontation instrumenté par une question soit maison, soit topo, fait que l'autre fille dans l'autre classe, la semaine d'après, a su faire preuve de réticence, c'est-à-dire que malgré le fait que les élèves ne bougeaient pas, a été en mesure d'accorder un tout petit peu plus de temps, et donc a fait vraiment acte de dévolution au sens premier de ce terme, c'est-à-dire donner une part de responsabilité à l'élève dans la tâche, mais surtout lui donner le temps pour qu'il assume cette part de responsabilité. Et on voit apparaître des gestes qui sont cette fois spécifiques à la discipline ou aux pratiques de la discipline. Alors par exemple, en l'occurrence pour cet exemple-là, le fait que l'enseignante, vu que son niveau d'angoisse était tellement grand de ne pas voir les élèves agir, pour pouvoir les laisser agir, elle a décidé de s'éloigner, c'est-à-dire elle laissait les élèves abandonner, elle allait vers d'autres élèves. Et du coup, au bout de 3-4 minutes, ce que son activité prévoyait advenait, et donc elle changeait à nouveau vers un autre geste, en l'occurrence par exemple une régulation, mais une régulation qui laissait une place et une participation à l'élève. Alors pour conclure, puisque mon temps est écoulé, ce que je voulais, c'est surtout attirer l'attention sur le problème lorsqu'on articule recherche et formation, le danger de la réification des concepts de la recherche, c'est-à-dire de les transformer cette fois en principe de formation, et d'oublier le sens premier C'est un peu ce qui se passe avec les fameuses ingénieries didactiques de Rousseau. C'est une ingénierie, elle est faite pour produire des phénomènes à observer, et ce n'est pas une leçon type qu'on va pouvoir faire marcher. D'accord ? Mais, d'un autre côté, ce qu'il est intéressant ici, et c'est un mouvement qu'on a beaucoup de mal à assumer aujourd'hui, c'est comment, à partir d'une participation de ces étudiants, des enseignants au système de la recherche, via l'autoconfrontation et l'analyse croisée, partagée avec les praticiens eux-mêmes, comment on peut faire pour alimenter, pour donner un peu plus de chair et de profondeur à ces concepts qui sont intéressants mais qui sont d'une généricité immense et qui ne sont pas forcément... ils n'apportent pas des réponses fines que nécessitent parfois nos didactiques eu égard à la spécificité de leur histoire institutionnelle. Merci beaucoup et puis je pense qu'on va ouvrir au débat. Donc c'est le moment des réactions et il nous reste 13 minutes.
Alors, moi je suis français, donc je suis évidemment très intéressée par les deux présentations, les plus centrées formation continue, l'autre formation initiale. Le thème, en fait, de la discussion, alors, ici, on en a vu des aspects dans l'intervention de Anna, où il est question des innovations à l'intérieur des systèmes tels qu'ils fonctionnent avec les contradictions qui peuvent être sous-jacentes au système même et à leurs interactions. Mais pourquoi alors appeler ça innovation et pas changement, qui est un terme plus descriptif? Il semble que dans l'histoire de la didactique, il y a quelque chose qui est à tricoter avec l'innovation. Et ça, il me semble qu'on devrait quand même en parler un petit peu ensemble ici. Parce que autant on peut adhérer à des analyses et à des recherches qui essayent de comprendre le fonctionnement des systèmes, parce que aujourd'hui c'est la qualité de la didactique, mais quelque part, quand même, ce thème de l'innovation doit aussi être pris.
Rápidamente para los hispanófonos, la pregunta es que el tema era investigación. Nos ha escuchado mucho sobre investigación y formación y hace la pregunta qué pasa con la innovación y interpela a Ana Camps diciendo que por qué lo que ella presentó como innovación no se puede hacer como cambio y me interpela a mí diciendo que no hable para nada de... Entonces, Ana, te cedo la palabra primero mientras yo preparo mi respuesta.
Yo, la verdad es que una... A ver, el tema de la innovación está muy contaminado, digamos, por las confrontaciones entre lo que desde posturas innovadoras, digamos, se ha calificado de enseñanza tradicional, digamos, con un cierto ánimo de menospreciar unos modelos de enseñanza que se consideran caducos, y el cambio en modelos de enseñanza. Yo adopto el término innovación, me parece, lo he adoptado aquí primero porque era el tema del Congreso y me parecía pertinente relacionarlo de esta manera. Quizás, y ahora no me defino sobre eso, estaría bien el concepto cambio, pero yo quería situar la idea de cambio, de innovación en este sentido, en el sentido de un cambio reflexionado y que instala nuevas prácticas. Sería quizá algo que añadiría al simple cambio. El cambio podría ser un ajuste irreflexivo. Yo creo que la innovación es inherente a unas prácticas socialmente instauradas, a unas actividades, pero la innovación viene cuando se elabora conocimiento sobre estas prácticas, se ven sus contradicciones y se adoptan otros modelos de intervención para superar los problemas detectados o las, más que problemas, a mí no me gusta hablar de problemas, los desajustes en sistemas de actividad o en relación con los objetivos que se plantea aquella actividad. Por tanto, yo no diría que la palabra es problema, pero yo diría pensar en la innovación en este sentido de reelaboración, en cierta forma conceptual, y no simple cambio de aplicación, de regulación de las prácticas a niveles más inconscientes. Lo que pasa es que la innovación se ha entendido, como decía, con esta confrontación entre la enseñanza tradicional, y entonces ha habido un proceso, digamos, de rechazo del término innovación, porque parecía que se propugnaba la innovación por la innovación, por ser distinto, por hacer distinto. Y yo creo que yo quería, digamos, instalar esta idea de innovación en estas necesidades de ajuste de la enseñanza a nuevos modelos. Finalmente, si pensamos, no sé, en la historia de la pedagogía, vemos que, no sé, Comenius, por ejemplo, cuando hace su propuesta de agrupar frente a una enseñanza personalizada, ¿no?, de unas élites, una enseñanza para todo el pueblo, que se llega a instaurar mucho más tarde, pero y con muchos niños agrupados, nos damos cuenta de que responde a unas necesidades sociales, políticas, etcétera, que luego se consolidan de tal forma que nos parece la forma natural de enseñar, ¿no? Tener unos cuantos niños delante y aprovechar el tiempo, digamos, enseñando, hablando a un grupo de niños, y ha sido el modelo. Bueno, la reflexión sobre estas prácticas y el ajuste de estas prácticas a nuevas condiciones es seguramente la fuente de la innovación entendida como cambio en los modelos básicos, ¿no?, que fundamentan la enseñanza. Claro, entonces, ¿qué inputs, digamos, entran en este proceso? Muchísimos, muchísimos conocimientos y muchísimas realidades que se consolidan en conocimientos de campos diversos también. Pero ¿qué sería? La pregunta es no específicamente didáctico, como he preguntado también. No sé si lo he estado yo por mi parte.
Alors, moi je réponds à Thérèse, effectivement, je n'ai pas parlé d'innovation. Le terme me gêne parce qu'il a une historicité en termes de vision technocratique de l'éducation que je ne partage pas et qui est, hélas, en train de se généraliser. Cependant, je pense qu'effectivement, la recherche articulée notamment à la formation est source d'innovation. Et source d'innovation dans le sens où il ne s'agit pas de petits changements, mais ça peut amener des changements profonds sur la manière dont on conçoit nos objets et nos pratiques dans une didactique en particulier. Alors, ces objets sont en formation aujourd'hui, on les forme à peine, donc on ne voit pas cette fameuse innovation, peut-être verra-t-elle le jour. Moi, je pourrais donner juste un exemple de en quoi le fait de travailler ce genre de dispositif a des effets en termes de formation, et je reviens à l'exemple que j'évoquais auparavant concernant la formation de théâtre. Pour contextualiser très rapidement, c'est une recherche qu'on mène en Colombie, où il y a une université qui s'appelle l'université pédagogique. C'est-à-dire tous les gens qui font des choses là-bas sont destinés à l'enseignement dans les disciplines dans lesquelles ils se forment. Alors, le problème, c'est que les professeurs de cette université, eux, ils viennent d'un milieu socio-professionnel, c'est-à-dire que le théâtre, ben, il est destiné à former des acteurs et des metteurs en scène. Le comptable à former des comptables, et pas des enseignants qui vont jouer sur la comptabilité dans le système scolaire. Quand on arrive, nous, avec notre fameuse question de la topogenèse, je te donne un exemple très très concret, dans les pratiques théâtrales, le théâtre s'hérite, se transmet au sein du travail de troupe via toute une série de formes scolaires, de formes d'activité de transmission, dans laquelle, par exemple, un élève ou un étudiant va jouer le rôle du metteur en scène et les autres le rôle de l'acteur, et à travers le montage, ben, on va commencer à découvrir les ficelles du métier. Lorsque nous, on arrive avec notre question de topogenèse, avec une vision de l'objet qui est une vision de l'art comme pratique culturelle, et qu'on dit à cet enseignant, mais c'est très intéressant ce que vous faites, parce que là, dans ce qu'on observe, il y a en tout cas ça de topos. On voit le topos enseignant, c'est vous, on voit le topos étudiant, c'est vos élèves, mais vos élèves, vous les faites, certains jouer le rôle d'acteur, d'autres le rôle de metteur en scène, donc on voit le topos. Et on commence à essayer de comprendre comment il fonctionne avec lui. Puis tout à coup, trois semaines après, qu'est-ce qu'on voit dans la même, donc chez le même professeur? On commence à voir des élèves qui font le public. On commence à voir un étudiant à qui on a demandé de faire le critique d'art, faire le critique de théâtre. Et donc, on a changé le plaquage qui était le plaquage des pratiques socioprofessionnelles du théâtre a commencé à changer, et ce même professeur universitaire commence à se demander en quoi le fait de faire qu'un étudiant passe par des topos différents crée des expertises particulières qui vont amener à une certaine construction de l'objet. Moi, ce que je trouve très joli là, c'est que non seulement on est en train de changer le système de formation d'une manière très empirique pour l'instant, mais on est en train de changer l'objet à enseigner aussi. C'est-à-dire que le théâtre dans cette université commence à ressembler de moins en moins à une formation de théâtre et de plus en plus à un objet qui serait potentiellement amené à l'école, parce que je sais que être dans un certain topos, dans une certaine posture, va créer une posture énonciative particulière, un rôle énonciatif particulier, et donc une expertise particulière par rapport à cet objet qui est, par exemple, monter une petite scène de Andromaque, Racine. Parce que ça se fait, on demande à des gosses de 11 ans d'un quartier de Bogota, alors qu'ils ne mangent même pas à leur faim, de monter en Andromaque. Ça, c'est le non didactique de mon intervention. Donc, c'est assez intéressant de voir comment, à terme, je pense que l'innovation est là. C'est-à-dire, il y a une autre manière de concevoir des objets, un peu comme, à un moment donné, en didactique des langues, la question sur l'oralité a donné lieu à toute une série d'objets et de séquences, d'un objet qui était absolument transparent quelques années auparavant, c'est-à-dire on fait de la didactique orale parce que mes élèves parlent. Donc, ça a créé. Alors, effectivement, je pense que c'est le bout de réponse que je pourrais apporter.
Doncs molt bé, moltes gràcies. M'han acabat molt bé. Ens espera terminar i...